Bonjour, chers auditeurs, auditrices. C'est l'émission Naturellement du MNLE 06. Denis Laspeza, je suis avec Gérard Piel. Donc, nous sommes très heureux de reprendre nos émissions. On en profite aussi pour vraiment remercier Radio Agora Côte d'Azur qui nous héberge toujours dans ses locaux. Alors, comme à notre habitude, l'émission va se dérouler en deux parties. La première partie, on recevra André Prone et Gérard va nous dire qui est André Prone et puis va le questionner.
Oui, bonjour aux auditeurs, aux auditrices. André Prone est docteur en sciences de la Terre et de l'environnement. C'est un expert géologue, président du conseil scientifique du MNLE. Il est aussi poète et militant syndical et politique. Ses derniers ouvrages, Marché, Monde ou Écommunisme, et Capitalisme et Révolution, sont deux ouvrages qu'il a écrits, et l'ouvrage qu'il vient de diriger pour le MNLE et les éditions Émile Communication s'intitule L'impact de l'anthropisation sur la biosphère. Il a permis à une vingtaine de contributeurs donc de donner leur avis sur les questions de l'eau, du sol, de l'environnement, bref. Cet ouvrage est paru donc juste avant le congrès mondial de la biodiversité qui vient de se terminer à Marseille. L'entretien avec André, donc l'anthropisation, c'est un mot qu'on a du mal à prononcer puis à trouver dans le dictionnaire. Peux-tu nous donner la signification de ce mot, André ?
Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Mais pour répondre à ta question, permets-moi d'en inverser les termes. Le mot anthropisation, tiré du grec anthropos, qui signifie homme, est le processus par lequel les populations humaines modifient ou transforment l'environnement naturel. Par exemple, la déforestation, la surpêche, la pollution, l'élevage intensif, l'urbanisation, la surexploitation générale des ressources minérales, etc. Quant au titre de notre livre que tu as présenté, il reprend cette idée d'anthropisation avec pour objectif d'en mesurer les impacts globaux sur l'homme et la nature. Autant de questions qui sont au cœur de ce qui fonde les dysfonctionnements biosphériques avec les conséquences que l'on sait.
Peux-tu nous donner quel rapport entre les différentes contributions, il y en a une vingtaine dans le livre que tu as dirigé, et le dernier rapport du GIEC qui a fait l'actualité, y compris au Congrès mondial de la biodiversité.
Les travaux du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ouvert à tous les membres de l'ONU, n'ont pas pour vocation de définir à la place des États les mesures économiques, politiques et sociales qu'il conviendrait de prendre. Leur but est de faire un état des lieux sur la situation climatique planétaire à court et à long terme et d'avancer les divers scénarios attendus si rien n'est entrepris pour que cela change. En ce sens, leur dernier rapport donne à penser qu'il faut agir très vite, ce que tente à confirmer tous les cataclysmes dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Pour n'en citer qu'un seul, le dramatique épisode des vallées de la Roya et de la Vésubie, impactées par des pluies diluviennes, des crues rapides et des laves torrentielles extrêmement destructrices, voit malheureusement bien montré. Mais pour en revenir aux travaux du GIEC, ils sont en quelque sorte des anticipations climatiques liés à l'ensemble des activités humaines grâce à l'expertise de plusieurs centaines de scientifiques. Il est par conséquent difficile de les comparer avec ceux du tout jeune conseil scientifique du MNLE qui compte seulement 40 membres et plus encore avec des travaux présentés par les 20 scientifiques qui ont dirigé l'ouvrage dont nous parlons ici. Nous pourrions faire la même remarque avec des travaux de l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont le congrès mondial, comme tu l'as dit, s'est tenu à Marseille en septembre. Cependant, Ta question est d'autant plus pertinente qu'elle pointe du doigt une différence d'approche significative. Les scientifiques du GIEC et de l'UICN ont une démarche qu'on pourrait qualifier d'essentiellement naturaliste. Naturaliste et s'adresse aux gouvernants. Les travaux que nous présentons dans ce livre associent science et citoyenneté et s'adressent à tous. Pour le dire autrement, dans ce livre, les impacts de l'anthropisation sont étudiés non seulement du point de vue du fonctionnement des écosystèmes, mais en les resituant dans un contexte socio-écosystémique. C'est-à-dire, pour parler plus simplement, en faisant le lien avec la situation socio-économique capitalistique actuelle.
Donc l'eau, le sol, le climat et la biodiversité sont traités en profondeur par les intervenants, avec des avis contrastés. Pour ce qui te concerne, es-tu plutôt optimiste ou pessimiste pour les années qui viennent ?
Comme je l'ai déjà souligné, l'approche globale de ce livre entend associer les questions de la biodiversité à la dimension plus socio-économique des choses. Mais chaque acteur, bien sûr, a traité cette approche en fonction de sa sensibilité, d'où les avis contrastés. Pour ma part, les choses étaient sans doute plus simples, car j'associe depuis bien longtemps mes connaissances scientifiques à la militance. Cela débouche sur un nombre conséquent de livres dont tu as déjà parlé. Pour moi, la question globale qu'il faut se poser n'est autre que celle de l'adéquation entre, d'une part, la réponse aux besoins humains et, d'autre part, la préservation des équilibres écosystémiques. Ce que Marx appelait, dans le Capital, la condition générale du métabolisme entre l'homme et la nature. Si j'en juge par les difficultés que nous avons rencontrées à ce jour pour matérialiser cet objectif, cela me rendrait plutôt pessimiste. Mais si je m'en tiens à l'opinion des gens qui placent au premier plan de leurs préoccupations aujourd'hui la question du dérèglement climatique, alors cela me rendrait plutôt optimiste. Pour reprendre une citation d'Antonio Gramsci, je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté.
Bien sûr. Tes précédents ouvrages proposaient des pistes pour sortir de cette société destructrice de l'humanité. Tu continues de proposer une réelle bifurcation vers ce que tu nommes l'écommunisme. Peux-tu développer ce concept, s'il te plaît ?
Alors, je te remercie de me poser cette question, car elle me permet d'associer plus encore que je ne l'ai fait jusqu'ici, la dimension environnementale à la nécessité de sortir du capitalisme. Le concept d'écommunisme que j'ai proposé dans le prolongement des idées de Marx se veut un outil de la libre association des producteurs pour une meilleure harmonie entre l'homme et la nature. Il postule que la mise en œuvre d'un ensemble de coopération citoyenne fondée sur une contre-culture sociale, serait apte, en venant contrarier le développement du néolibéralisme, à générer une bifurcation propice à une transition révolutionnaire. Cela est d'autant moins utopique que des prémices de cette contre-culture sociale sont déjà à l'œuvre. Disons, pour en donner quelques exemples, que l'usage de l'objet tente à supplanter sa possession, que l'idée d'une consommation pro-sociale et pro-écologique, incitant à la modération de la production durable, progresse, que la nécessité de développer des chaînes d'approvisionnement locales s'installe peu à peu dans les mentalités. La limitation des intrants dans l'agriculture est de plus en plus plébiscitée, que les actions pour les transports publics moins polluants et gratuits font leur chemin. D'ailleurs, à ce propos, on peut espérer que cette idée soit vraiment celle des populations qui vont agir contre la privatisation des transports régionaux de la PACA. Une autre idée, c'est que les jardins partagés et les logements plus écologiques sont de plus en plus soutenus. Et nous pourrions, comme ça, citer un certain nombre d'autres exemples. Cela traduit, me semble-t-il, une plus grande défiance des populations et des jeunesses du monde à l'égard des grands groupes multinationaux. L'écoménisme, quant à lui, tout en encourageant ces nouvelles pratiques, propose la mise en œuvre d'une contre-culture sociale sur des bases plus structurelles. Par exemple, la coopération des acteurs de la santé et des populations dans le but de rouvrir des structures hospitalières et de créer des coopératives médicales autogérées offrant des soins gratuits. Cela dit en passant, cette démarche serait la bienvenue dans le cadre de la pandémie qui nous impacte depuis 2020. Un autre exemple, c'est la création de maisons communales coopératives avec pension de retraite partagée. Le développement de coopératives de production autogérées en produisant des biens en lien avec nos besoins fondamentaux. La SCOPTI, que certains d'entre vous connaissent, qui est une coopérative mise en œuvre par les travailleurs, illustre bien cet exemple et montre que cela est possible. Le développement de l'habitat coopératif et l'échange non marchand des savoirs manuels et intellectuels sont également une des idées que l'écoménisme développe. Une alliance forte entre les acteurs de la recherche publique et les citoyens pour mieux préserver l'environnement naturel. Et là, nous sommes au cœur du livre dont nous parlions tout à l'heure. La création de multi-réseaux autonomes embrassant tous les domaines de la diffusion, de l'information et des savoirs, dont Radio Agora est un bon exemple. Enfin, le développement en milieu rural d'activités autogérées en lien avec le milieu naturel pour redonner vie aux campagnes qui sont de véritables déserts aujourd'hui. C'est certes, les revendications des travailleurs n'intègrent pas encore l'idée d'intervenir à la fois pour améliorer les salaires, les droits, les conditions de travail et pour produire des biens matériels et culturels qui répondent à nos besoins fondamentaux, même si de ci, de là, sont notées des actions pour obliger ou contraindre le patronat à produire en respectant l'environnement. Pour autant, de sérieux progrès sont accomplis, notamment à travers les coopératives de production prises en charge par les travailleurs eux-mêmes, dont j'ai parlé tout à l'heure et dont la SCOPTI est un des bons exemples. Le livre paru aux éditions du Croquant en 2020, que j'ai coécrit avec ma camarade Jeannine Guestin-Michel, et qui a pour titre « Pratique et communiste et dynamique émancipatrice », rend compte de tout cela. Notons que s'il a fallu des décennies pour que ces questions environnementales et politiques affleurent, elles sont à présent d'autant mieux comprises que les populations mesurent dans leur quotidien ce qu'il en est. Elles voient bien que si l'on change notre façon de produire et de consommer, nous allons droit dans le mur. Donc, ce qui hier encore paraissait une utopie devient plus crédible aujourd'hui. Voilà pourquoi avancer le concept d'écoménisme et montrer que l'impact de l'anthropisation sur la biosphère n'est pas qu'une affaire d'experts donne un sens à l'idée d'agir collectivement pour ne pas hypothéquer l'avenir de l'humanité. Voilà en quelques mots, donc résumé, quel est le sens de cette bataille écoméniste.
Je te remercie André, et disons que dans cette bataille, le MNLE, y compris en produisant et en éditant l'anthropisation sur la biosphère, joue tout son rôle d'association écologique. Tu as su réunir tous ces scientifiques qui, à leur façon, et sur les différents sujets, ont tracé des pistes pour justement aller vers ces pratiques écoménistes que tu as si bien détaillées. Merci beaucoup. Écoute, le livre est en vente. Il reçoit un très bon succès, y compris au moment du congrès qui s'est terminé à Marseille il y a quelques jours. Je suis sûr qu'on aura de nouveaux rendez-vous, y compris sur cette antenne ou ailleurs, pour avancer avec toi sur ces questions. Merci André, et je donne rendez-vous aux auditeurs pour la deuxième partie.
Merci à vous tous.
Agora Côte d'Azur.
Chères auditrices et auditeurs, on se retrouve dans l'émission du MNL 06 naturellement à Radio Agora Côte d'Azur. Gérard, quelques questions. Le MNL 06 prépare une réunion publique qui va se tenir dans quelques semaines. Et le sujet, c'est l'olivier et toutes ses implications. Peux-tu nous dire deux mots sur cette future initiative ?
Oui, alors déjà, on a eu beaucoup de mal, mais on n'est pas la seule association à avoir souffert des problèmes liés à la pandémie. Hein, et donc, tenir des activités, à part ce que l'on a fait au niveau du Forum Alternatif Mondial de l'Eau, tout cela par Internet, qui nous a quand même aidé à avoir une certaine activité au niveau national, mais au niveau du département, après d'ailleurs la présence de certains amis qui ont participé ce week-end qui vient de se terminer à la Fête de l'Humanité en tenant le stand du MNLE national, nous avons choisi de reprendre une activité en la liant à la question de l'olivier. Alors l'olivier dans ce département et plus largement dans la région, tout le monde connaît évidemment, mais il y a des façons de traiter l'olivier dont je suis sûr que beaucoup d'habitants des Alpes-Maritimes n'ont pas idée, au-delà de l'huile et de tout ce que l'on peut proposer en termes de savon, etc. Donc l'idée, c'est de mettre face au public entre guillemets des spécialistes de l'olivier, avec Albert Roumieux que beaucoup de personnes connaissent puisqu'il a sorti un bouquin aux éditions Émile Communication qui s'appelle L'olivier passionnément. Albert est quelqu'un qui produit de l'huile d'olive qui a été souvent primée du côté de Pélissanne dans les Bouches-du-Rhône. Il a écrit le livre sur l'olivier parce qu'il pense que c'est un arbre mythique de la Méditerranée, je le cite, et qui a de tout temps fasciné les hommes. Albert s'était trouvé au moment d'une assemblée générale du MNLE à Valoris, à côté d'Émile Tornator, qui est aussi adhérent du MNLE, donc. Et la discussion que nos deux amis avaient engagée autour de l'olivier, en tout cas moi, m'avait beaucoup passionné, mais les autres auditeurs aussi. Et l'idée, c'est de leur redonner la parole dans une réunion publique, là, qui permettrait vraiment aux participants d'abord d'écouter. Il y aura, je pense, une troisième personne. Pour l'instant, je n'ai pas son accord définitif. Mais il y aura trois personnes, voilà, je pense, qui sont vraiment des spécialistes de l'olivier. Émile Tornator a pendant des années été maire du Broc. Et à ce titre-là, il a pu lui aussi développer l'utilisation de l'olivier, mais pas que de l'olivier en tant que produit à consommer au niveau de l'huile, mais aussi il avait mis en place vraiment une chaîne de production jusqu'au noyau des olives qui étaient traitées et qui produisent d'ailleurs de l'énergie pour le village. Donc c'est tout cela qu'on va proposer. Et donc j'espère que on aura la possibilité de le faire, donc la réunion va se dérouler au début du mois de novembre. Je pense qu'elle aura lieu à la Trinité, qui est un endroit aussi où l'olivier joue un grand rôle. Et à cette occasion, le MNL 06 présentera un peu son programme pour la suite de l'année 2022, puisque nous avons aussi d'autres actions, y compris revendicatives, à mener dans ce département avec tout ce qui s'est passé. Et nous avons cru, quand on nous a parlé du monde d'après, et on est en train de se rendre compte que le monde d'après ressemble étrangement au monde d'avant, y compris en ayant mis encore beaucoup plus de monde sur la touche. Et donc, voilà, ça sera la réunion de rentrée du MNLE début novembre à la Trinité autour de l'Olivier. Et j'espère que... Mais on y reviendra dans notre émission du mois d'octobre. J'espère qu'il y aura du monde à ce moment-là.
Oui, Gérard, merci. Effectivement, l'olivier, arbre mythique de nos régions. Oui, l'olivier, c'est les olives, c'est l'huile d'olive, les produits dérivés, le savon. Mais à partir de l'histoire de l'olivier, on peut parler des terrains liés à la culture, on peut parler de l'eau, on peut parler de beaucoup de choses. Et je crois que cette réunion risque d'être passionnante. Autre sujet, Gérard, tu coordonnes un ouvrage collectif sur la question de l'eau. Et c'est une des questions que nous abordons assez régulièrement dans notre émission, naturellement. Peux-tu nous donner déjà un petit peu la primeur de ce que va être cet ouvrage ?
Alors, oui, au moment du début, quand nous avons lancé le Forum Alternative Mondial de l'eau, je souligne d'ailleurs que le forum officiel, qui est organisé par Veolia, Suez et les élus proches du pouvoir, du gouvernement, n'a toujours pas eu lieu, lui. Il devait se dérouler donc en 2021 à Dakar, il ne se déroule pas. Les échanges que nous avons eus d'ailleurs pendant cette année, y compris avec des amis sénégalais, me laisse penser que ce forum mondial officiel ne se déroulera pas du tout, en tout cas pendant les années qui viennent. Nous avons choisi donc, et nous avons eu beaucoup de rencontres donc en utilisant les moyens d'internet avec des amis qui soient en Palestine, qui soient en Afrique, qui soient au Canada. Et l'idée du MNLE, c'est de mettre d'une part de faire participer les amis qui ont étaient présents à ces réunions, de leur offrir la possibilité d'écrire dans un bouquin qui rassemblerait un peu ces interventions, mais en allant au-delà. Et aujourd'hui, on m'a chargé de coordonner ce bouquin. Il y aura des articles sur les barrages, il y aura des articles sur la Méditerranée et la Corse, des articles sur la disparition ou de certains animaux, donc... maritime, mais aussi des nouvelles espèces qui fréquentent nos côtes. Enfin bref, il y aura des articles sur, évidemment, un article sur la catastrophe qu'a évoqué tout à l'heure André, donc de la Vésubie et de la Rawaya. Une spécialiste de l'assainissement nous donnera les nouvelles pistes qui sont en train d'être mises sur le papier pour assainir autrement les villes. Et puis, il y aura aussi un article très intéressant dont on a du mal, quand on ne connaît pas cette affaire, à prendre la dimension de l'eau des ballasts dans les bateaux. Voilà. Il faut savoir que les bateaux, ils ont des ballasts et elle est remplie d'eau de mer. Et c'est de cette façon que des animaux des eaux subtropicales se retrouvent en Méditerranée, en océan ou même... plus près encore des pôles. Et donc, cette question-là est traitée au niveau international et c'est une amie marseillaise, donc c'est un peu la spécialité qui nous prépare un article là-dessus. Un peu à l'image du livre qu'a dirigé André Prone, je pense qu'il y aura une vingtaine, peut-être un peu plus d'intervenants, avec y compris des interventions de syndicalistes qui travaillent aujourd'hui dans des grands groupes et qui le feront de façon anonyme. Et puis, nous avons choisi de sortir ce bouquin pour la Journée mondiale de l'eau qui a lieu au mois de mars 2022. Et donc, on est en pleine préparation. Voilà, très rapidement. L'eau, aujourd'hui, on a pu se rendre compte encore cet été les difficultés qui sont liées d'ailleurs à... et qui sont expliqués par Charles-François Boudouresque dans le livre d'André Prone. Le changement climatique apporte aussi une modification du cycle de l'eau qui fait qu'il est différent de ce qu'il était encore il y a 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, les catastrophes, alors évidemment qu'on ne peut pas les prévoir, mais on peut malheureusement prévoir que, par exemple, une crue centennale pourra se dérouler beaucoup plus fréquemment que ce que c'était le cas il y a encore 10, 20, 30 ans. On a vu ce qui s'est passé à New York il y a quelques jours. Cela s'était passé à New York en 2012, je crois, le même ouragan qui avait dévasté cette ville. On voit les grandes métropoles qui sont au bord des fleuves ou au bord des océans petit à petit s'enfoncer dans l'eau. Oui, évidemment que les océans et la mer montent de niveau, mais c'est aussi surtout que ces grandes métropoles ont un besoin d'eau tellement important, les industries, enfin bref, la vie dans ces métropoles, qui fait qu'elles pompent les nappes phréatiques qui sont dessous. Et on voit comme ça Shanghai qui s'est enfoncé de 3 mètres, Bangkok de 4 ou 5 mètres. Voilà, ça aussi, ça fera partie des éléments qu'il y a dans le bouquin. Et puis pour terminer, sur une note, j'allais dire un peu plus drôle, mais à mon avis très pessimiste, cet été, à Antibes, Veolia a alerté les élus d'Antibes, de Biote et de la Colle-sur-Loup qu'il fallait demander aux habitants de laisser couler leur robinet pendant 2 minutes avant de consommer l'eau du robinet. Et tout cela s'est passé pratiquement dans une indifférence générale. Il n'y a pas eu d'alerte. Quelques semaines auparavant, c'était du côté de Roquefort-les-Pins. Et là, la population étant moins importante, Veolia avait distribuer des bouteilles d'eau minérale. Mais là, on a demandé tout simplement aux gens de faire couler leur robinet 2 minutes, donc avant chaque utilisation. Quand on sait qu'on utilise environ entre 100 et 120 litres d'eau dans les familles par jour, on peut imaginer ce que cela représente. Ça représente du gaspillage, parce que l'eau, c'est quand même quelque chose d'essentiel. On voit bien en ce moment que l'eau potable, elle diminue globalement sur la surface de la planète tous les jours un peu plus. Et puis, c'est un gaspillage financier. Parce que Veolia, ces 2 minutes d'eau, ça représente environ entre 5 et 6 litres à chaque fois d'eau potable. Elle va les facturer. Elle va les facturer à la commune, elle va les facturer à la famille. On a évalué donc cette facturation, parce qu'on est toujours dans la période où il faut toujours aujourd'hui ouvrir le robinet et faire couler 2 minutes. On en est à plus d'1,5 million d'euros qui va être encaissé par l'entreprise Veolia, tout simplement parce qu'elle a négligé l'entretien des réseaux. Il faut savoir que les réseaux à Antibes, il y a encore beaucoup de plomb, voilà. Et donc, on a retrouvé du plomb, du mercure dans l'eau potable de la ville d'Antibes, qui est quand même la deuxième ville du département des Alpes-Maritimes. Voilà un sujet qui, je l'espère, sera traité. Bon, là, pour l'instant, on a du mal avec les gens qui travaillent dans cette entreprise pour avoir tous les éléments. Mais on voit bien que cette question de l'eau, avec la sécheresse qui règne actuellement dans les Alpes, est devenue très importante. Donc, effectivement, il va y avoir un bouquin sur l'eau qui, je crois, va aussi amener un peu de transparence dans le débat. Et je crois que sur cette question, on en a bien besoin parce que ce n'est pas le Forum mondial de l'eau officiel qui fait la transparence, ni les majors de l'eau. Veolia ayant maintenant mis la main sur Suez, on voit qu'il n'en reste plus qu'un. Peut-être que ça sera plus facile à nationaliser de cette façon.
Oui, Gérard, c'est un sujet qui est très important. Tu fais bien de nous préciser que l'eau... au-delà, tout à l'heure avec André Pron, on parlait du rapport du GIEC. Effectivement, l'eau est un élément important, fonte des glaciers, montée des eaux d'une manière générale. On pourrait dire, voilà, c'est comme ça. Par contre, il y a ce que l'on fait localement et tu viens de développer. Là, je crois que le citoyen, il a intérêt à agir et à intervenir. L'assainissement, les systèmes d'assainissement qui font que encore autour de la mer Méditerranée, il y a encore dans divers pays énormément de villes qui déversent leurs eaux usées dans la mer directement. Il y a aussi dans notre Côte d'Azur des améliorations à faire au niveau de l'assainissement. Et ça, les majors de l'eau doivent des comptes. Il y a aussi un élément très important, c'est l'écoulement des eaux de pluie avec les bassins de rétention. Là aussi, on est très loin de ce que l'on devrait faire et on est très loin et on est en droit d'exiger des élus de prendre des positions beaucoup plus efficaces sur ces sujets-là. Donc je pense que là aussi, cet ouvrage sera passionnant. Dernière question, Gérard, dernier point. Il y a eu toute rentrée politique, syndicale, associative, il y a eu l'université du MNLE national qui s'est tenue en Haute-Savoie. Donc ça serait bien que tu nous dises quelques mots. D'abord, ça n'a pas été simple dans la période d'organiser cette université. Donc je suppose que malgré tout, elle a pu se dérouler sans trop de problèmes. Tu peux peut-être nous faire un état des différents thèmes qui ont été abordés. Et puis, éventuellement, nous résumer s'il y a deux, trois interventions qui t'ont particulièrement intéressé.
Agora Côte d'Azur.
Oui, alors, effectivement, l'université d'été du MNLE s'est déroulée en Haute-Savoie, grâce d'ailleurs à la Fédération des œuvres laïques qui a mis à notre disposition un village de vacances que nous avons partagé d'ailleurs avec des réfugiés, puisque la Fédération des œuvres laïques loge des demandeurs d'asile dans ces villages de vacances, et je trouve que le fait de discuter, de croiser ces personnes nous a déjà apporté beaucoup. Il y avait une cinquantaine donc de responsables du MNLE de toute la France qui étaient réunis pour cette université d'été. Nous avons le titre de l'université, c'était « Vers un après humain et durable ». C'était la 26e université d'été du Mouvement national de lutte pour l'environnement. Et disons que les différents débats qui se sont déroulés donc pendant une semaine, puisque les journées étaient découpées entre la matinée, il y avait des débats, et l'après-midi, nous étions sur le terrain pour différentes visites, ont permis de vraiment faire le lien entre notre association et la vie des gens, quoi. Voilà. On est arrivé on a évoqué donc les questions du climat, de la biodiversité, mais aussi les questions sociales qui sont de plus en plus prenantes et qui jouent un rôle. Et le fait que le social et l'écologie soient mis au même plan est quelque chose qui différencie le MNLE d'autres associations écologiques. On a travaillé avec Charles-François Boudouresque sur l'impact des activités humaines par rapport à l'évolution de la biodiversité, que ce soit sur Terre comme sur la mer. On a écouté un ami qui travaille sur la Loire, qui est le dernier fleuve sauvage de France. C'est lui qui le dit, Jean-Pierre Branchereau. Là aussi, il est remonté loin dans le temps pour montrer comment l'impact des activités humaines sur ce fleuve a apporté des modifications importantes. Comment aujourd'hui, certains voudraient redonner à ce fleuve son originalité du début, c'est-à-dire le rendre complètement sauvage, chose qui n'est plus possible. Il faut savoir que la Loire est un des fleuves les plus importants pour l'économie de la façade maritime de l'Atlantique. Enfin, nous avons travaillé en atelier, que ce soit sur l'artificialisation des sols, sur la privatisation de l'eau, sur les énergies renouvelables et sur les transports. Ces quatre ateliers ont donné lieu à des... On produit des documents qui sont publiés sur le site du MNLE national. Il y a eu aussi, avec Nicolas Viovi, le point sur l'évolution du climat et ses conséquences sur la végétation, qu'elle soit naturelle ou cultivée. Et là, il y a du souci à se faire, hein. On voit bien que la végétation, mais on peut le constater, y compris en ce moment, est en train d'évoluer de façon très... très mauvaise. Je veux dire, les arbres vivent beaucoup moins longtemps. Cette évolution du climat joue un rôle vraiment néfaste sur la végétation. Et enfin, nous avons débattu avec des syndicalistes d'EDF sur la suite des questions de l'énergie. Et nous avons vu comment l'entreprise EDF est en train d'être dépecée. Alors, on a pu se féliciter à ce moment-là du report du projet Hercule, qui est un projet qui, lui, a mené le démantèlement de cette entreprise. Mais nous voyons bien que, malgré ce report du projet Hercule, les syndicalistes qui étaient présents nous ont démontré comment l'entreprise EDF est dépecée. Voilà. On est allé aussi sur le terrain rencontrer des personnes de ce département qui luttent et qui essayent, alors, mesure de résister à l'industrialisation, par exemple, des fermes. Il faut savoir qu'en Haute-Savoie, on est Evian, Tonon, donc il y a l'utilisation de ces sources par le privé, par Danone en particulier, pour faire de l'eau, de vendre des bouteilles d'eau, etc., etc. Voilà quelques points qui ont fait que notre université a été, je crois, très productive.
Oui, merci Gérard de nous avoir fait ce petit compte-rendu. Je profite des quelques secondes qui nous restent pour vous dire que le MNLE 06 est à votre disposition, parce que dans le département, il y a de quoi faire, de quoi dire et agir. Tu as dit ce qui fait un peu notre différence avec d'autres associations qui s'occupent d'environnement, c'est que nous, le social et l'écologie, c'est intimement lié. Donc, je lance un appel à ceux qui veulent nous rejoindre. Ça sera avec grand plaisir. Ils peuvent nous contacter sur notre mail. C'est mnle.06@orange.fr. ou sur notre page Facebook MNLE06. Je lance cet appel. Il y a beaucoup de travail à faire et on a besoin d'être de plus en plus nombreux et d'être très actifs sur ces questions-là. Voilà, notre émission se termine. Merci Gérard Piel. On remercie Radio Agora de nous laisser la parole et de nous laisser aborder des sujets qui nous paraissent quand même importants. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain.